0079.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le mardi 29 mars. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, les Russes repoussés d'Irpin, cette ville stratégique de la banlieue de Kiev. C'est le maire qui l'annonce, on l'entend dès le début du journal. Anaïs, après, les autres titres.
Les agriculteurs de la FNSEA en congrès à Besançon, boudés par Yannick Jadot. Fallait-il invoquer le secret des affaires pour ne pas rendre public les rapports sur Orpea ? La question sera posée aujourd'hui à la ministre par le Sénat. Et puis c'est le spectacle qui met le feu tous les soirs en ce moment à Paris, la tendresse sur l'identité masculine version 2022.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50 avec vous, Léa.
Le psy le plus sexy de France est de retour et on s'en réjouit après le triomphe de la première saison. La saison 2 d'Enthérapie arrive sur Arte dans quelques jours. Frédéric Pierrot, le comédien qui incarne ce psy emblématique, sera avec nous à 7h50, accompagné d'Emmanuel Berco qui a réalisé plusieurs épisodes de la série. Je préviens déjà, je suis très excitée.
À tout à l'heure, Léa, 8h20, on se retrouvera. Et ce sera la suite de notre série des 12 grands entretiens avec les 12 candidats à l'élection présidentielle. Ce matin, la candidate désignée par le Parti Socialiste, Anne Hidalgo. Amis auditeurs, vous avez très largement la parole dans ces grands entretiens. J'attends donc vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter.
Ce fut l'une des images du conflit en Ukraine. L'exode de familles fuyant la ville d'Irpin, franchissant la rivière sur un passage précaire en planche de bois. Aujourd'hui, les Ukrainiens annoncent que la ville a été reprise aux forces russes. Verrou, à l'entrée nord-ouest de Kiev, elle est dévastée par les combats. On fait le point avec vous, Virginie Pironon.
Gilet pare-balles sur veste kaki, c'est le maire d'Irpin, Alexandre Markouchine, qui le premier a donné ses informations sur son compte Facebook. Information vite confirmée par le gouvernement ukrainien. La ville d'Irpin est libérée, dit-il, même s'il ajoute vite ses quelques précisions.
C'est important de le savoir pour les résidents. Il est encore impossible de revenir à Irpin. C'est trop dangereux. Les forces armées ukrainiennes sont en train de consolider leur position. Nous savons que nous serons encore attaqués par les troupes ennemies et nous défendrons encore courageusement la ville.
Défendre la ville, consolider ses arrières, puis de là, libérer ensuite les autres villes symboliques à l'entrée du nord-ouest de Kiev que sont Boutcha, Gostomel, Vorzel, là où les combats font encore rage. C'est ici que se joue une partie de l'avenir de Kiev face aux troupes russes. Des informations à prendre encore avec beaucoup de précautions, tant la situation sur place reste fragile. Selon des journalistes de l'AFP, à Irpin, les combats se poursuivaient ce lundi avec une vingtaine de fortes explosions entendues dans la journée.
À Mariupol, la danse macabre des chiffres s'affole sans qu'on puisse le vérifier. 5000 morts, disent les autorités, peut-être 10 000. Depuis 10 jours, les morts ne sont plus enterrés à cause des bombardements. Et alors que de nouvelles discussions doivent débuter entre Russes et Ukrainiens à Istanbul, sans grand espoir de réussite, le renseignement britannique estime qu'un millier de combattants du groupe Wagner se sont déployés dans l'est de l'Ukraine. Pour Londres, si ces mercenaires proches de Vladimir Poutine se préparent au combat, c'est à cause de lourdes pertes subies par l'armée russe. Wagner en Ukraine, par ailleurs déjà soupçonné d'exactions au Mali, en Libye ou en Syrie, voilà de quoi ternir encore un peu plus l'image de la Russie. Sujet délicat outre-Rhin, où vit la plus grande communauté russophone de l'Union européenne. Hugo Flotatalon s'est rendu à Cologne, où vivent 15 000 Russes, 6 000 Ukrainiens, dans un climat qui se tend.
De grands immeubles à l'écart du centre-ville, 40% de la population d'origine immigrée. Le quartier de Korvailer est parfois surnommé le petit Moscou ici. Et la guerre crée un malaise, explique Zina, arrivée de Russie il y a 25 ans. Ça me fait mal que des civils souffrent et meurent des deux côtés, dit-elle. Mais je trouve quand même que Poutine a ses raisons et honnêtement, je suis de son côté. Un soutien franc que plusieurs centaines de personnes ont montré en se rassemblant dans une ville voisine le week-end dernier, drapeau russe en main, des amis de Constantine y étaient. C'était davantage un appel pour dire « Hé, on est là aussi », assure-t-il. C'était contre les brimades, contre les Russes, pas en soutien à la guerre, insiste celui qui est marié à une Ukrainienne. Les deux communautés insistent « N'importons pas la guerre ». Yulia Goncha, arrivée d'Ukraine il y a 20 ans, prend même la défense des personnes russes. Tous ceux que je connais sont contre la guerre, très très tristes de ce qui se passe. Certains m'ont même appelé en pleurant, s'excusant d'être russe, et ils me soutiennent avec des dons matériels ou financiers, insiste-t-elle. Le vivre ensemble est fragile, tous le savent ici. Car si le quartier est épargné, on recense déjà 200 agressions contre les Russes d'Allemagne chaque semaine dans le pays. Cologne, Hugo Flotatalon, France Inter.
Et pour éviter d'envenimer la situation, plusieurs Länder en Allemagne ont interdit l'affichage de la lettre Z, symbole du soutien de l'action du Kremlin en Ukraine.
Et à propos de Vladimir Poutine, il est 7h05, cette mise au point des États-Unis.
Oui, Joe Biden persiste et ne retire pas ses propos. Cet homme ne peut pas rester au pouvoir. C'était sous le coup de l'indignation, dit-il, mais... Non, les États-Unis ne cherchent pas un changement de régime en Russie. Voilà la précision de la Maison-Blanche. Pendant ce temps, près de 3 900 000 Ukrainiens ont quitté leur pays pour se mettre à l'abri dans les pays limitrophes. Hier soir, les ministres de l'Intérieur des 27 ont adopté un plan en 10 points proposé par la Commission pour mieux coordonner leurs efforts à Bruxelles. Angélique Bouin.
La création d'abord d'une plateforme commune d'enregistrement des réfugiés. À ce stade, ils le sont au niveau national. Les 27 vont aussi se coordonner sur les va-et-vient de trains ou de bus mis à disposition pour les évacuations. Établir des quotas de répartition entre eux n'a pas été retenu. Mais l'idée est tout de même d'alléger la Pologne qui accueille déjà plus de 2 millions d'Ukrainiens. Une autre plateforme, accessible à tous, va recenser les capacités d'accueil de chacun. Face aux risques déjà identifiés de trafics humains et d'exploitation sexuelle, les Européens ont également décidé hier de s'organiser. Tous les services de police ont une mission, a expliqué le ministre français Gérald Darmanin.
Être particulièrement attentif à ce que nous commençons à voir, c'est-à-dire la présence de personnes malfaisantes près des endroits où on accueille les réfugiés pour exploiter femmes et ou enfants.
Des véhicules suspects ont été repérés près de certains centres de réfugiés. Vigilance aussi sur le risque d'infiltration de terroristes, très faible néanmoins car ce sont essentiellement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Enfin, les 27 se disent attentifs au risque de circulation d'armes après la guerre, comme on l'avait observé dans les Balkans. Là aussi, leurs services de police seront particulièrement mobilisés. Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter.
Pour Amnesty International qui présente son rapport annuel, la guerre en Ukraine est une répétition de la guerre en Syrie. L'ONG écorne aussi le deux poids, deux mesures de la politique française. Le schéma d'accueil et d'hébergement de 100 000 places proposé par Jean Castex pour les Ukrainiens face aux déclarations en pleine crise afghane du chef de l'État appelant à se protéger contre des flux migratoires irréguliers importants.
Un grand absent au congrès national de la FNSEA à Besançon.
Le premier syndicat agricole a invité tous les candidats à la présidentielle pour les entendre chacun pendant 12 minutes demain, mais tous ne viendront pas, ni Jean-Luc Mélenchon, ni l'écologiste Yannick Jadot, celui qui veut sortir de l'élevage industriel et diviser par deux d'ici à 2027 les engrais et pesticides de synthèse, a préféré se rendre, Antoine Gignot, à l'opposé, en Bretagne.
Officiellement, c'est pour des raisons d'agenda que Yannick Jadot ne peut pas se rendre au congrès. Trop d'engagement, notamment dans les médias, à moins de 2 semaines du premier tour. Mais pas d'animosité, le dialogue est ouvert, il y a un respect mutuel, explique un proche du candidat écologiste. D'ailleurs, au salon de l'agriculture, Yannick Jadot s'est arrêté une bonne demi-heure devant le stand de la FNSEA pour parler avec sa présidente Christiane Lambert. En pratique, pourtant, l'ancien militant de Greenpeace proche de la Confédération paysanne et l'éleveuse de porc, devenue patronne du plus grand syndicat agricole de France, ne partage rien, ou presque, et ce n'est peut-être pas un hasard si Yannick Jadot se rend à Saint-Brieuc pour y parler algues vertes et conséquences de l'élevage intensif. La FNSEA lance un membre de l'équipe de campagne, fait la promotion d'un modèle qui favorise la dépendance des exploitants agricoles et la mauvaise qualité. Ce n'est pas ce qu'on défend. Et il conclut, ce n'est pas notre modèle qui pousse une partie des agriculteurs au suicide. Les représentants de la FNSEA ne sont pas nos ennemis, mais il faut avec eux avoir un dialogue ferme.
Lui se fait épingler avec Marine Le Pen et Jean Lassalle par l'association Les Shifters, spécialisée dans la transition énergétique. Nicolas Dupont-Aignan est l'un des 3 candidats dont le programme est le plus éloigné de l'accord de Paris. Hier sur Inter, le candidat de Debout la France a affirmé qu'il menait probablement sa dernière campagne. Il sera ce soir en meeting à Forbach chez son soutien Florian Philippot. Sur l'Ukraine, il redonne son plan de paix, neutralité du pays, autonomie constitutionnelle du Donbass et retrait des troupes russes. Quant à Nathalie Arthaud, hier soir sur France 2, la candidate lutte ouvrière estime qu'on n'en aura jamais fini avec les guerres, je cite, si on ne change pas cette société capitaliste. Sur le Macron assassin entendu au meeting de Zemmour, elle estime que ce sont des raccourcis que personnellement elle ne ferait pas. Elle demande par ailleurs la fin du secret des affaires invoqué pour ne pas rendre public le rapport sur Orpea. La polémique va sans doute d'ailleurs rebondir cet après-midi. La ministre déléguée à l'autonomie, Brigitte Bourguignon, est entendue par la commission d'enquête du Sénat. Elle avait relevé des dysfonctionnements graves dans les rapports de l'inspection générale des finances et des affaires sociales, sans qu'il soit rendu public en effet à cause du secret des affaires. Victor Dolande.
Est-ce que l'État a voulu couvrir Orpea ? Est-ce que ce sont ses propres manquements en termes de contrôle des EHPAD qu'il a voulu cacher ? À moins que les services juridiques du ministère aient confondu le secret de l'enquête avec le secret des affaires. Toutes ces questions, Bernard Bonne se les pose. Le sénateur LR et rapporteur de la commission d'enquête sur cette affaire ne manquera pas d'interroger Brigitte Bourguignon sur ce point.
Pourquoi le rapport de l'IGF et de l'IGAS n'a pas été rendu public ? Toute la partie argent public qui a été soulignée un peu dans le livre de Dieter Castagnier ne devrait pas faire partie justement de ce secret des affaires.
Le secret des affaires est extrêmement encadré par la loi. Pour Basile Adair, avocat au barreau de Paris, il ne pourrait être justifié dans cette affaire que
si dans les éléments saisis dans le cadre de l'enquête, il y avait des informations de nature confidentielle et qui ont une valeur patrimoniale et pour lesquelles l'entreprise avait mis en place des systèmes de protection qui justifieraient qu'ils ne soient pas communiqués. Le plus souvent, on biffe dans des contrats les parties qui ressortent au secret des affaires et qui ont de nature à rester confidentielles.
Autrement dit, le gouvernement aurait très bien pu rendre public le rapport tout en raturant les passages confidentiels. De son côté, le ministère de l'Autonomie affirme que la quasi-intégralité du rapport est couverte par le secret des affaires et qu'il ne pouvait donc le dévoiler.
À Besançon, le Chilien Nicolas Zepeda comparé aujourd'hui devant les assises, accusé d'avoir assassiné sa petite amie japonaise il y a plus de 5 ans, précision à 7h30. La centrale au charbon de Saint-Avold en Moselle, qui doit fermer jeudi, pourrait bien reprendre du service dès l'hiver prochain. Le ministère de la Transition écologique le laisse entendre face aux déboires d'EDF et de son parc nucléaire. Qui sont les jeunes hommes d'aujourd'hui ? Elle est très vaste question à laquelle Julie Berès essaye de répondre au théâtre. Après la vague MeToo, cette pièce, La Tendresse, explore la masculinité en 2022. Spectacle explosif, Stéphane Capron qui met en scène un groupe de 8 comédiens et danseurs.
J'ai jamais eu trop de détails, mais j'ai toujours entendu mon père dire « J'ai eu une enfance difficile ». Après, si ça se trouve, c'est des mythos, c'est Héroïse, hein. C'est peut-être une tête technique de daron pour nous faire marcher à la baguette.
Dans son précédent spectacle, Désobéir, Julie Berès explorait l'émancipation féminine via les récits de jeunes femmes issues de l'immigration. Avec La Tendresse, elle donne la parole à de jeunes hommes dans la France de l'après-MeToo.
Comment aujourd'hui, alors qu'il y a cette génération qui, moi, je trouve, donne beaucoup d'espoir et où on sent que ça bouge beaucoup, que les lignes tremblent, de questionner ce masculin dans une société où le féminin a pris la parole et des paroles d'émancipation de façon importante ces dernières années, où est-ce qu'on en est de ce patriarcat.
Chacun des 8 personnages donne ses réponses avec sa propre langue, son propre vécu. Ainsi se dessine pour le comédien Alexandre Liberati la diversité de l'homme d'aujourd'hui.
Ce qui est intéressant dans le spectacle, c'est que chacun de nos parcours, en fait, sont liés à un paradoxe. Donc en même temps, on va aussi dans des clichés, des stéréotypes, et c'est de là qu'on tire toute la dérision et tout l'humour du spectacle. Mais aussi, ces paradoxes créent une profondeur et du coup, une réflexion politique.
Et tout cela dans un joyeux chaos à l'énergie galvanisante, au rythme d'une bande son rap de Missy Elliott à Booba, en passant par les Marseillais de bandes organisées.
Et c'est au théâtre Gérard Philippe à Paris, encore jusqu'au 1er avril, puis en tournée à Rennes, Brest ou encore Toulon.
Merci Anaïs Feuga. Le Zoom, c'est dans 3 minutes. Aujourd'hui, le grenier à céréales ukrainien à l'épreuve de la guerre.